Donc je vais demander à Perrine Seguin, qui est interne de l'éducation, qui était venue déjà l'année dernière nous présenter son projet de recherche, qui consiste à utiliser, donc je crois que tu vas peut-être faire un petit point sur les interfaces cerveau-ordinateur et d'essayer d'utiliser certaines de ces techniques pour mettre en place la communication à la phase aiguë, ce qui est souvent un souci.
Oui, bonjour, oui, effectivement, l'an dernier, donc, j'avais fait un Master 2 en bioingénierie et neurosciences, et on avait évalué une interface cerveau-machine auditive, donc je vais vous expliquer un petit peu les concepts de ces interfaces. J'essaierai de faire ça en combien de temps?
Si on veut laisser quelques minutes de questions au public, pas trop plus qu'un quart d'heure, un petit quart d'heure.
Oui, d'accord, ok.
Là, il n'y a que 5 minutes de retard. Donc.
Ok, très bien, merci. Du coup, à l'occasion de ce projet, j'avais fait un peu le bilan de l'état des lieux de ces interfaces. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, il y aura une présentation générale de ces interfaces, cerveau-machine. Il y aura un point plus spécifique sur les interfaces qui sont dédiées à la communication, qui vous intéressent le plus souvent. Il y aura aussi un point de débat sur l'utilisabilité de ces interfaces cerveau-machine à l'heure actuelle. Et il y aura un point aussi sur les perspectives futures de ces interfaces. Donc la présentation générale, je vais définir les interfaces cerveau-machine. Je vais vous montrer très brièvement les différentes méthodes de recueil du signal cérébral en les comparant. Et je vais vous montrer aussi les différentes fonctions de ces interfaces. Donc qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-machine déjà ? Il y a plusieurs noms pour les nommer, interface cerveau-ordinateur, brain-computer interface, BCI. Et c'est un système de liaison directe entre un cerveau et un ordinateur. Donc l'avantage, c'est que ça permet à un individu de communiquer en temps réel avec son environnement, sans passer ni par les nerfs périphériques, ni par les muscles. Donc c'est évidemment très intéressant dans le cas de paralysie, quand le cerveau fonctionne encore bien. C'est un concept qui date un peu, qui remonte à 73, et les premiers essais chez l'homme datent des années 90. Donc les méthodes de recueil du signal cérébral, il y a ce qu'on appelle des méthodes invasives et non invasives. Donc les méthodes invasives, c'est celles qui nécessitent de faire une neurochirurgie, donc de passer sur la table d'opération, pour aller placer les électrodes. Donc ce que vous pouvez voir ici, soit on peut mettre... Ça marche, oui. Les électrodes directement dans le cortex, soit on les met juste sous la membrane qui est la dure mère ici en marron, et soit on les pose juste dessus la membrane. Le signal est un peu moins bon au fur et à mesure qu'on est vers l'extérieur, mais on a moins de risques aussi au niveau des risques d'infection, d'hémorragie cérébrale. Donc il faut faire un compromis entre le risque et les bénéfices. Ensuite, pour vous montrer donc quelques exemples d'interfaces invasives, c'est celles qui ont été le plus médiatisées. C'est deux personnes qui avaient une tétraplégie haute qui ont été implantées. Donc vous pouvez voir ici les électrodes implantées. Et vous pouvez voir aussi, je prends ces photos à chaque fois parce qu'on voit bien l'environnement. Il faut un ingénieur, un chercheur, il faut des grosses machines derrière pour faire le traitement de signal en temps réel. C'est des gens qui sont implantés mais qui peuvent faire bouger ce bras robotisé pour se servir à boire ici, uniquement dans un laboratoire. Et après ils rentrent chez eux avec ces électrodes, avec les risques infectieux et de complications liés à ces électrodes, mais sans en avoir le bénéfice. Donc ça pose, c'est encore au stade vraiment recherche. Ici, vous avez les autres méthodes de recueillement du signal cérébral qui, elles, sont complètement non-invasives, donc qui n'ont aucun risque pour la santé, mais qui sont beaucoup moins précises. Là, vous avez l'électroencéphalogramme, qui, donc, on sait, existe depuis le début des années 1900, qui capte l'activité électrique du cerveau. Vous avez la possibilité de capter l'activité électrique. Pas l'activité électrique, l'activité qui est due au flux, au changement du flux de sang. Quand l'activité cérébrale augmente, il y a des zones qui vont être plus vascularisées. Ça, on peut le détecter sans moyen invasif. Et on peut le faire aussi en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ça, comme vous le voyez ici, c'est pas un outil qui est très déplaçable, mais on peut des fois l'inclure dans des protocoles interface cerveau-machine où les gens ont pu communiquer en direct avec ce genre d'IRM pour des gens qui avaient des troubles de conscience notamment. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes? Pour les interfaces invasives, On a une très bonne qualité de signal, on peut commander un bras robotisé, ce qui demande plusieurs degrés de liberté. Il faut beaucoup de commandes, donc c'est très intéressant. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients liés à la neurochirurgie. Il faut un environnement très spécialisé, très lourd, très cher. Et il y a aussi des réactions immunitaires à long terme contre les électrodes. Donc il faut retourner en neurochirurgie pour reposer les électrodes, et on ne peut plus les reposer au même endroit parce qu'il y a de la fibrose. Donc ça pose encore souci. Pour les interfaces non invasives, pas de problème de santé, c'est de plus en plus portatif, on peut se promener même dehors avec son interface. Par contre, on a une très mauvaise qualité du signal, et donc c'est moins rapide, il y a moins de commandes, l'aspect esthétique n'est pas toujours là, et il y a quand même une lourdeur de mise en place des électrodes, il faut des gens pour mettre tout ça en place, et c'est long. Alors, les différentes fonctions des interfaces, je ferai plus un point sur les troubles de communication, mais là, on peut s'en servir aussi des interfaces pour faire de la rééducation, essayer de récupérer de troubles moteurs. Par exemple, ici, ce monsieur, il avait une paralysie d'un bras, et on lui demande de réfléchir à bouger son bras. On détecte l'onde cérébrale associée à « je bouge mon bras », et là, quand on s'est détecté, ça active une neuroprothèse qui va bouger sa main. Comme ça, il a un retour, il pense à bouger son bras, sa main se met à bouger par la machine, et ça crée, ce qu'on espère, c'est créer un cercle vertueux. Pour l'instant, c'est le début de ce genre de recherche, ça n'a pas encore prouvé une efficacité importante, mais il y a une petite efficacité qui existe. D'autres choses, ce sont les interfaces dédiées aux loisirs, donc là c'est plus léger, ici c'est un puissance 4, ici c'est des loisirs créatifs, c'est des interfaces qui ont l'air assez anodines comme ça, mais ça permet de restaurer un lien par le jeu, par l'échange artistique qui est intéressant et qui est sur un pied d'égalité avec les personnes qui n'ont pas de troubles moteurs. Ensuite, on a des interfaces à visée diagnostique pour détecter des gens qui sont complètement paralysés mais qui sont encore conscients. On peut faire des bilans neuropsychologiques. Donc, la supplémentation motrice, c'est ce qui est le plus connu, c'est les bras robotisés que vous avez vus. Il y a aussi des projets comme à Grenoble de commander un exosquelette avec une électrode implantable. On peut commander des fauteuils roulants. C'est des interfaces qui sont utilisées aussi pour faire progresser la recherche en neurosciences, aussi mieux comprendre le fonctionnement cérébral. Et enfin, donc, les interfaces qui vont nous intéresser plus ici, celles qui sont dédiées à la communication verbale ou non-verbale, les interfaces qui s'attachent à détecter par exemple les émotions, et des interfaces non-verbales qui s'attachent à communiquer autrement que par des lettres pour les gens aphasiques, avec des pictogrammes, voilà, comme on a dans les aides techniques classiques. Donc ces interfaces dédiées à la communication, il y en a des non-invasives qui sont les plus connues. Donc il y a celles où on vous demande, en fait, quand vous faites un essai, de vous concentrer sur un signal extérieur qui est envoyé le plus souvent par un écran d'ordinateur. Et donc ici, il faut se concentrer sur l'image qu'on veut sélectionner et essayer d'ignorer les autres signaux. Donc le plus connu, c'est le P300 Speller. Et il y en a un autre type qui s'appelle les Steady State Visual Evoked Potential. Là, vous voyez les quatre petits cadrans qui sont ici. En fait, dans chaque petit cadran, il y a un groupe de lettres. Et chaque cadran clignote à une vitesse différente. Et on va vous demander de vous concentrer sur un cadran. Et la vitesse de clignotement va se traduire aussi quelque part avec une vitesse d'activation des neurones, une fréquence d'activation des neurones dans le cerveau. Et c'est ce qu'on va chercher à détecter. Donc ça demande pas mal de concentration. Il y a d'autres moyens de générer un signal cérébral qui permettent de commander une interface cerveau-machine. C'est on génère un signal de manière intérieure. On imagine qu'on bouge sa main, son bras, ses orteils. On cherche au contraire à se relâcher, à penser à rien. Donc je voulais juste vous montrer très brièvement à quoi pouvait ressembler le P300 Speller. Ça, c'est les versions qui ne sont pas encore très ergonomiques, où il n'y a pas encore l'aspect... Est-ce que ça marche ? Non, QuickTime n'est pas disponible. Eh bien, tant pis. Du coup, on voit flasher différentes lettres sur l'écran. Et le but, c'est d'arriver à se concentrer sur une seule lettre et qu'à chaque fois qu'elle est flashée, il faut compter cette lettre. Pour l'instant, c'est encore en cours d'évolution et ça reste encore assez fatigant et pas utilisé en vie réelle par les patients. Je voulais vous montrer un aperçu rapide de ce qui peut être fait en invasif. C'est le début de la recherche de la communication avec des interfaces invasives. C'est une étude aux États-Unis ici qui avait essayé avec cette personne qui avait déjà un implant pour évaluer une épilepsie. Donc on ne les opérait pas spécifiquement pour ça, mais on leur demandait d'essayer de lire un texte. Et pendant ce temps-là, on enregistrait et leur activité cérébrale et leur voix. Et ensuite, on faisait la même chose en leur disant de lire à voix basse. Et on voulait voir si on était capable, à partir de ce qu'on avait enregistré dans la première partie, quand ils parlaient, quand ils faisaient en imaginant, de reconnaître les mots qu'ils disaient. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que quand le sujet disait les mots à haute voix, la machine était capable de reconstruire le signal très correctement. Par contre, malheureusement, quand le sujet lisait dans sa tête, ce qui serait probablement plus proche de ce qu'on demanderait à une personne paralysée, pour l'instant, la machine faisait beaucoup d'erreurs, presque autant que le hasard, qui est le niveau avec lequel on compare tous nos résultats en interface cerveau-machine. Il y a une autre étude de la même équipe qui essayait d'évaluer c'est le nombre d'erreurs en fonction du nombre de mots qu'on a dans sa ressource de vocabulaire. Quand on attribuait 30 mots de vocabulaire, il y avait encore 33% d'erreurs de mots, ce qui peut quand même compliquer fortement la communication. Et ce n'est pas encore au stade d'interface cerveau-machine, puisque ce n'est pas encore en temps réel. Mais c'est une des possibilités qu'un jour, en pensant un mot, on puisse éventuellement communiquer. Alors, comment, vous voyez dans tout ce que je vous ai dit, que c'est encore pas vraiment appliqué.
Deux, trois minutes.
Okay. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'utilisabilité d'une interface cerveau-machine? On va évaluer sa fiabilité, c'est la précision, le nombre de réponses correctes, les performances, la rapidité, la satisfaction. C'est comme toutes les autres aides techniques. Aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas, ces interfaces n'apportent pas grand-chose. Le bénéfice modéré est prouvé seulement pour les utilisateurs qui ont un handicap moteur très sévère, des troubles oculomoteurs importants. Pour l'instant, la plupart des études, même celles qui sont très médiatisées, c'est des preuves de concept. On a une BCI, une interface qui marche, mais par contre, elles ne sont pas forcément essayées, c'est des sujets qui sont paralysés. Ça n'a pas été comparé avec les aides existantes. Des fois, on va beaucoup plus vite avec un eye tracker ou une autre aide technique. Donc on aimerait voir plus d'études qui comparent, plus d'études longitudinales, c'est encore à venir. Les perspectives futures, les interfaces de loisirs que je vous ai présentées, elles sont intéressantes parce qu'elles demandent peu de contraintes. Il faut juste les installer rapidement, s'il y a quelques erreurs, c'est pas grave. Les interfaces visées diagnostiques, on peut passer plus de temps à les installer, c'est pas grave. Mais il faut qu'elle soit plus fiable et plus efficace. Les interfaces de communication, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup de contraintes et c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à franchir le cap. Donc on arrive à une utilisabilité. Pour les jeux, on pourrait presque tous s'amuser avec. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans les démonstrations du laboratoire. Par contre, pour celles qui sont les plus importantes, on n'arrive pas encore à les utiliser. Mais il faut miser sur les bénéfices des échanges entre ces différentes populations. La population générale, il y a des retombées financières qui peuvent être très importantes, notamment par le monde des jeux vidéo, de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Et ça, les constructeurs en sont très conscients et ils s'attachent aussi à développer en parallèle des projets avec les personnes qui gravitent autour des Locked-in syndrome et les Locked-in syndrome eux-mêmes. Voilà, pour vous montrer qu'on fait des progrès dans les électrodes, des électrodes plus sympas, moins efficaces que celles qu'on a en professionnel, mais qui sont quand même en voie d'amélioration. Ça, c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle fait énormément de progrès et que ça aide aussi à mieux traiter le signal cérébral. On améliore les processeurs, les perspectives futures, donc les améliorations technologiques combinées au renforcement de la pluridisciplinarité qui est en train de se passer, et l'implication plus en amont des projets des utilisateurs, comme on a vu dans la présentation juste avant, qui était très très bien avec ce cycle où on retravaillait au fur et à mesure. C'était un design plus centré sur l'utilisateur. On peut arriver un jour probablement à des interfaces utilisables en vie réelle par des personnes en situation de handicap. Voilà, ça c'était quelques lectures. Je vous recommande le livre de Miguel Nicolelis qui résume bien l'histoire de ces interfaces. Et il y avait juste quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous laisserai me contacter sur le mail qui est juste après ici. Il y a la Société internationale sur les interfaces cerveau-machine qui propose aux personnes en locked-in de faire une présentation vidéo avec un texte éventuellement que vous aurez écrit au préalable pour dire ce que vous attendez de ce genre d'interface. Et ça peut être une occasion pour des personnes locked-in de communiquer à des chercheurs et beaucoup de spécialistes ce qu'elles attendent de ces interfaces. Ça peut être très intéressant comme expérience. Et j'avais envoyé un questionnaire en fin d'année dernière pour faire le point sur la phase initiale du locked-in syndrome. Je ne peux pas encore vous présenter les résultats car l'étude est en cours et je ne voudrais pas biaiser les choses. Mais voilà, je remercie les 42 personnes qui ont rempli ce questionnaire et vous pouvez me contacter pour ceux qui ne l'ont pas rempli pour récupérer le questionnaire. Voilà, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont rempli et merci à ceux qui vont le remplir. C'est un sujet compliqué, alors aussi rapide, je ne sais pas ce qu'il en ressort.
Des questions ?
Oui, j'ai juste une petite question. Je vous remercie d'abord pour cette remarquable présentation. Ça a un côté un petit peu science-fiction quand on vous écoute. Et puis on se dit manifestement, il y a des gens qui travaillent, vous travaillez, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. Est-ce qu'on peut commencer à imaginer un délai, un intervalle de temps dans lequel on pourra bénéficier réellement, en dehors du laboratoire, de ces extraordinaires appareillages quand même.
C'est très difficile de s'avancer sur le délai parce qu'on a vu que même pour des aides techniques de la vie quotidienne qui sont quand même beaucoup moins chères que les interfaces, on arrive à des barrières quand même énormes. Donc après, je pense que là, il y a des études en Allemagne qui ont montré sur quelques cas de personnes paralysées, complètement isolées, qu'il y avait déjà un bénéfice en clinique. Mais c'est des équipes cliniques entières qui tournent autour d'une seule personne et qui s'adaptent vraiment. Donc il y a 3-4 ingénieurs, plusieurs chercheurs, des ergothérapeutes, et tout ça pour parier une seule personne. Pour l'instant, on en est là. On peut avoir un bénéfice, mais au prix de très lourds moyens. Et je ne pourrais pas donner de délai en année. Je suis trop jeune aussi, je pense, pour avoir une idée de tout ce qui nous attend. Mais voilà, c'est déjà très intéressant en soi, les projets. Et les personnes LIS qu'on a rencontrées étaient très motivées par ces projets. Même l'interface qu'on avait essayée l'an dernier, elle était quand même très difficile à utiliser. Et elle a échoué dans les essais avec les personnes paralysées. Mais on a eu des retours à chaque fois très enthousiastes. Et je pense que cet enthousiasme des personnes LIS porte aussi les projets. Au moment où nous, on est un peu en train de se décourager après tout ce qu'on a traversé, on a des retours qui sont quand même très incroyables. Ouais. S'il y a d'autres questions ou si on a un peu de temps. Oui.
Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes LIS qui sont plus lisibles, c'est-à-dire qu'on arrive mieux à interpréter l'un des trucs du cerveau que d'autres, et quelle est la caractéristique de ces personnes-là?
Alors, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu beaucoup de mal dans nos essais avec les personnes qui avaient des contractions musculaires anarchiques. Des fois, les personnes LIS, quand vous vous concentrez, ça va entraîner des contractions réflexes qui sont très difficiles à contrôler. Et du coup, comme le signal musculaire est 50 fois plus important que le signal cérébral, eh ben, on perdait tout le signal cérébral. Donc ça, c'est une barrière énorme. Après, on n'est pas encore assez avancé en recherche pour pouvoir dire voilà, il y aura plus de facilité avec une personne qu'une autre. Ouais. Puis il faut un entraînement aussi, il y aura une amélioration avec l'entraînement qui est difficile à tester parce qu'il y a très peu d'utilisation au long cours de ces interfaces pour l'instant.
Je le fais en courant, c'est pour gagner du temps.
Ah oui, oui.
Bonjour. Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes accueillis dans l'industrie quand on essayer de savoir si on peut espérer vraiment une collaboration avec les sociétés de jeux vidéo ou les sociétés d'électronique en général. Et est-ce que vous avez des barrières ou est-ce qu'on vous accueille bras ouverts et est-ce qu'on peut espérer des choses moins chères qu'en passant par l'industrie classique ?
Alors oui, effectivement. Alors moi déjà, j'avais fait cette présentation là déjà dans un petit congrès en Allemagne, et il y avait un des présentateurs qui apportait sa nouvelle électrode juste derrière l'oreille là, qui était moins chère et beaucoup moins contraignante que la plupart des autres électrodes qu'on a. Et lui, il tablait sur, effectivement, sur les deux tableaux. Et après ma présentation, il est venu dire oui, c'est vrai que nous, nous sommes ici pour à la fois pour leur image aussi, c'est très bien d'avoir quelque chose qui pourrait être utilisé, voilà, pour des personnes en situation de handicap. Et pour les retombées financières, ils misaient évidemment dessus parce qu'ils ne pouvaient pas rentabiliser toute la recherche avec une toute petite population. Donc oui, c'était une vraie volonté. Et au laboratoire, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, ils travaillent avec plusieurs sociétés dont j'ai oublié les noms, mais qui sont les jeux vidéo, un partenaire privé qui essaye de développer des interfaces cerveau-machine, qui avait fait des essais à Garches aussi, je crois. Donc il y a une volonté. Après, c'est un peu le début de la mise en place de cette collaboration, et c'est pas forcément linéaire, quoi. Il faut quand même trouver des terrains d'entente entre les différentes contraintes. Les électrodes qu'on a obtenues à présent sont des améliorations par rapport aux électrodes sèches, oui, qu'on avait en recherche avant. Donc ça veut dire que ces partenaires sont capables de produire des choses mieux que ce qui existait, mais c'est pas encore au même niveau que les électrodes avec gel très contraignantes qu'on met en recherche. Mais voilà, c'est... Faut se dire
merci,
c'est
merci Perrine. Ce sera la dernière question. Ouais. Ceux qui veulent poser des questions à... Non, moi j'ai eu des consignes. Ceux qui veulent poser des questions à Perrine pourront les poser après.
Méchant.
On a 10 minutes de retard. Les exposants nous aident. Donc, on recommence 40 minutes, dans une demi-heure. Voilà. À 40 au lieu de... À 55 au lieu de 45. Voilà.